France Culture.
Bonjour à tous. Après la mort du chef suprême Ali Khamenei, l'Iran confirme celle du chef d'état-major des armées et celle du ministre de la Défense iranien. Dans le pays, la transition s'organise déjà, mais dans la région, au Moyen-Orient, l'Iran apparaît plus seul que jamais. Nous en parlerons avec notre invité, Antoine Basbous, politologue, associé de Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Des larmes et des slogans, mort à l'Amérique et à Israël pour certains, des applaudissements et de la musique pour d'autres dans les rues de Téhéran. En Iran, la mort du chef suprême Ali Khamenei divise la population, quand de son côté la République islamique annonce 40 jours de deuil et 7 jours fériés. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
De la rédaction internationale de Radio France, Ali Khamenei est mort hier pendant une opération militaire réalisée conjointement par Israël et les États-Unis. Comment s'est déroulée l'opération?
C'est le New York Times qui donne des détails. La CIA suivait l'ayatollah Khamenei depuis des mois dans ses déplacements, ses habitudes. L'agence américaine a appris qu'une réunion de hauts responsables iraniens se tiendrait samedi matin dans un complexe immobilier au cœur de Téhéran et que le guide suprême s'y trouverait. Les Américains ont ensuite partagé l'information avec les services israéliens. Les États-Unis et Israël ont décidé alors de modifier le calendrier de leur attaque, car le plan initial prévoyait une frappe de nuit pour bénéficier du couvert de l'obscurité. Sur la base des renseignements américains, l'opération a débuté vers 6h du matin avec le décollage d'avions de chasse armés de munitions à longue portée. Vers 9h40, les missiles ont frappé le complexe où se trouvaient plusieurs hauts responsables iraniens. Ali Khamenei se trouvait quant à lui dans un bâtiment voisin qui a été complètement détruit. Cette opération menée avec une extrême rapidité a mis en lumière l'incapacité des dirigeants iraniens à prendre les précautions nécessaires, souligne le New York Times.
Les précisions de Valérie Crova, journaliste à la rédaction internationale de Radio France. La République islamique s'était préparée à tous les scénarios. Le processus de transition en Iran démarre dès aujourd'hui. C'est ce qu'a promis le principal responsable de la sécurité du pays, Ali Larijani.
Selon la Constitution, l'avenir de l'Iran a été envisagé en l'absence de dirigeants. Un conseil de direction intérimaire va être formé. C'est ce que dit l'article 111 de la Constitution, sur la base de laquelle notre société est dirigée. Jusqu'à l'élection du prochain dirigeant, le président de la République, le chef du pouvoir judiciaire et l'un des juristes du Conseil des gardiens, élu par l'Assemblée de discernement, assumeront temporairement toutes les responsabilités de la direction du pays.
Le responsable de la sécurité de l'Iran, Ali Larijani. Frédéric Saïs, journaliste à la rédaction internationale de Radio France, vous nous rejoignez, bonjour.
Bonjour.
On l'a entendu, c'est un conseil de transition qui va assurer l'intérim du pouvoir. À quoi va ressembler ce conseil?
Alors on sait qu'il est composé donc de trois hommes, l'actuel président de la République, Massoud Pezeshkian, le chef du pouvoir judiciaire, Mohseni Ejei, ainsi qu'un juriste, Ali Reza Arafi, qui est issu du Conseil des gardiens de la Constitution, non pas de la Révolution, mais bien de la Constitution. C'est l'équivalent du Conseil constitutionnel en Iran. Pendant trois mois au maximum, ce triumvirat est censé gérer les affaires courantes, assumer les pouvoirs du guide suprême dans l'attente qu'un successeur soit désigné. Alors, ces pouvoirs du guide suprême sont extrêmement étendus. Il est à la fois le chef de l'État, le commandant en chef des forces armées, mais aussi le chef de la police. Il représente une autorité politico-religieuse. Il nomme ou fait nommer les cadres les plus importants des institutions du régime.
Est-ce que l'on sait qui pourrait devenir le nouveau guide suprême iranien?
Alors manifestement, le pouvoir intérimaire en Iran veut montrer qu'il compte aller vite. Nous travaillons dès aujourd'hui à la formation du conseil de transition, a expliqué l'un des hommes forts du régime, Ali Larijani, qu'on a entendu, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale. Évidemment, il y a là une part de communication de guerre. Le sous-texte, c'est de dire « nous sommes capables de nous relever rapidement malgré les frappes israéliennes ». Sous-entendu, il n'y a pas de vacances du pouvoir. C'est un message adressé bien sûr aux adversaires, à Israël et aux États-Unis, mais aussi un message à usage interne pour les Iraniens qui seraient tentés de manifester en tenant en compte ce vide du pouvoir. La désignation d'un guide suprême, en fait, elle est de la responsabilité de 88 religieux. C'est un organe qui s'appelle l'Assemblée des experts. Comment réunir cette assemblée sous les bombes, alors que les Israéliens et les Américains sont visiblement très bien renseignés sur les positions des hauts cadres du régime? Autre question, qui pour assumer cette charge à haut risque, car plusieurs successeurs potentiels ont déjà été tués par l'armée israélienne.
Merci Frédéric Saïs. L'armée israélienne, de son côté, annonce lancer de nouvelles frappes au cœur de Téhéran, la capitale iranienne, encore sonnée au deuxième jour de cette guerre. Siavosh Ghazi, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de RFI pour France Culture, en direct depuis Téhéran. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans les rues de la capitale ?
À l'heure actuelle, la situation est redevenue calme, mais les frappes israéliennes ont duré une heure, des frappes très très importantes et très intenses contre plusieurs quartiers du centre de la capitale iranienne, des bases des gardiens de la révolution, notamment la base Sarawla qui est en charge de la sécurité, du maintien de la sécurité de la capitale en cas de crise, ont été touchés. Cette base a été totalement détruite, donc selon plusieurs témoins que j'ai pu interroger. D'autres installations officielles, notamment le siège de la police nationale, ont également été frappées très durement, créant beaucoup de panique chez les Iraniens. La situation est très, très tendue dans la capitale iranienne. Il y a eu également des manifestations de fidèles du pouvoir qui se sont rassemblés dès 5 heures du matin pour rendre hommage au guide suprême iranien qui a été tué et exprimer leur colère et demander la vengeance. Plusieurs responsables iraniens ont affirmé qu'il y aura des frappes encore plus dures aujourd'hui contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans la région.
Siavosh Ghazi, un mot sur l'état d'esprit de la population à Téhéran ?
Alors, il y a les deux aspects. Hier soir, lorsque le président américain a annoncé la mort du numéro un iranien, il y a eu des gens qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie. La même chose dans de nombreuses villes de province. On a même vu des gens qui dansaient dans la rue pour exprimer leur joie. Mais ce matin, ce sont les fidèles du pouvoir qui se sont rassemblés à Téhéran, mais aussi dans de nombreuses villes de province, donc pour exprimer leur hommage au guide suprême iranien et demander que l'Iran résiste face aux pressions américaines et aux frappes qui sont menées depuis hier déjà contre Téhéran, mais aussi de nombreuses villes du pays.
Merci beaucoup Siavosh Ghazi, correspondant de RFI pour France Culture, d'avoir été en direct depuis Téhéran. En Iran, le président Massoud Pezeshkian a prévenu « Venger la mort de Khamenei est un droit et un devoir légitime ». Israël se prépare à la riposte iranienne et appelle environ 20 000 réservistes. Hier, les missiles balistiques iraniens ont traversé la défense antiaérienne israélienne et une femme d'une cinquantaine d'années est morte. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant de Radio France à Tel Aviv en Israël, vous vous êtes rendu sur le lieu de l'impact.
L'impact du missile est à seulement une dizaine de mètres.
Le missile est tombé juste là.
Right here. Alex, la soixantaine, est venu aider sa fille à déblayer son appartement en partie détruit.
Il est tombé juste à l'angle de l'appartement que vous voyez. Vous voyez là, l'arbre abîmé, c'est là que la femme est morte.
Une femme d'une cinquantaine d'années qui, plus de 24 heures après le début de la guerre, est la seule victime israélienne de la riposte iranienne. Un bilan mesuré au regard de la puissance des missiles qui ont traversé hier soir la défense antiaérienne, car les habitants de Tel Aviv étaient aux abris et que le système d'alerte est parfaitement rodé. Alors malgré les destructions, le risque, l'état d'urgence et la vie qui s'arrêtent soudainement, pour Alex, les États-Unis et Israël doivent aller au bout de leurs ambitions et faire tomber le régime iranien.
J'espère qu'ils vont terminer leur travail, que l'un des deux ne va pas s'arrêter au milieu du guet. Et peu importe la situation que l'on vit et le temps que ça dure, pourvu qu'on en finisse, ils veulent nous détruire.
La guerre contre le Hamas divise encore aujourd'hui les Israéliens. En revanche, le combat contre les Iraniens est largement soutenu, même dans les quartiers les plus touchés.
Des missiles qui tombent sur Israël, mais aussi sur plusieurs pays du Golfe. Des explosions ce matin ont encore secoué plusieurs villes du Qatar, des Émirats Arabes Unis ou Bahreïn. Ce qui a fait réagir un responsable émirati qui s'est adressé à l'Iran. « Votre guerre n'est pas avec vos voisins. L'agression iranienne contre les États du Golfe est même une erreur de calcul », a-t-il ajouté. Alors faut-il craindre un embrasement dans la région? Pour en parler, nous recevons Antoine Basbousse. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Vous êtes politologue, associé de Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Alors, quel est le calcul de l'Iran en frappant des pays voisins comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis ou Bahreïn?
Je crois que avec la mort de l'ayatollah Khamenei, eh bien, l'Iran est déboussolé. On comprend plus ce qu'il est en train de faire. Ce sont des actes suicidaires que de s'en prendre à des voisins qui étaient neutres dans cette affaire. Et surtout, aujourd'hui, l'Iran a frappé le port en eau profonde de Dokkum en Oman. Or, l'Oman, c'est là où ça s'est passé la dernière rencontre entre les Américains et les Iraniens, que ce soit à Genève, que ce soit à Mascate en Oman. Et c'est traditionnellement l'interlocuteur des deux parties. Donc, ils ont frappé un état de confiance, un état proche. Je crois qu'ils sont vraiment déboussolés, qu'ils commettent des actes suicidaires et qu'ils tirent des balles dans leurs propres pieds.
Suicidaires parce qu'ils n'ont pas les moyens, enfin l'Iran n'a pas les moyens de riposter longtemps.
Non, mais parce que l'Iran s'isole, il n'a plus aucun pays avec lequel il entretient de bonnes relations. Les proxys de l'Iran, qui étaient ses bras armés dans la région, ont été décapités les uns après les autres. Ils se taisent aujourd'hui. Il n'y a personne qui se lève pour défendre le nouvel Iran post-Khamenei. Et donc, cet acte-là, je ne le comprends pas parce qu'il est suicidaire, parce que l'Iran n'a plus de tête pour donner des instructions. Et donc, chacun tire à hue et à dia.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une réponse de la part des pays du Golfe?
À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de réponse, mais j'ai entendu hier dire que des pays comme l'Arabie, comme les Émirats, qui sont ciblés, peuvent répondre, mais ils veulent éviter de se montrer dans le même camp aux côtés de l'armée israélienne et de l'armée américaine. Sauf que aujourd'hui, Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, a été ciblée, et pas n'importe quel quartier, c'est la présidence en quelque sorte, le siège d'ADNOC, c'est-à-dire la compagnie pétrolière, et surtout dans le quartier où se trouve l'ambassade d'Israël. Donc, de ce fait, il y a une enchère iranienne qui va pousser les pays arabes à rentrer dans la danse et à infliger à l'Iran une alliance qui n'était pas du tout prévisible jusque-là entre Israël et les pays arabes contre l'hégémonie iranienne.
De son côté, le Hezbollah libanais allié de l'Iran a promis de faire face à l'agression. De quelle manière, à votre avis ?
Écoutez, les promesses ne sont pas taxées. Elles n'engagent que ceux qui les entendent et qui veulent les croire. Aujourd'hui, le Hezbollah est décapité. Il est extrêmement isolé dans le pays. Personne ne veut sacrifier le pays ou ce qu'il en reste pour les beaux yeux de Khamenei qui n'est plus là. Comme le pays a été sacrifié pour Gaza sur instruction de l'Iran, je crois que le Liban et les Libanais en ont énormément donné et ne veulent plus s'engager dans des guerres qui ne les concernent pas.
Et quel plan, en quelques mots, quel peut être le plan de sortie de cette guerre pour les États-Unis et Israël ?
Je crois que le chemin le plus court serait la chute du régime. Je crois que la banque de cibles est inépuisable, mais elle avance. Je crois que l'Iran n'a plus beaucoup de moyens demain pour continuer sa guéguerre. Et finalement, il y aura peut-être une régénérescence de l'intérieur de l'Iran, des gens qui sont acceptables pour les pays de la région, acceptables pour Israël, pour les États-Unis, qui reprendront le flambeau pour reconstruire un autre Iran qui n'est pas celui du terrorisme de la République islamique.
C'est bien compris. Merci Antoine Basbous, associé de Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. La France, par la voix du porte-parole du gouvernement, réagit aujourd'hui à la mort du chef suprême iranien. La France ne peut que se satisfaire de la mort de Khamenei, dictateur sanguinaire. Fin de citation. L'actualité en France, c'est aussi la baisse des allocations pour les familles avec plusieurs enfants qui entrent en vigueur aujourd'hui. L'âge de revalorisation des allocations familiales versées à partir du deuxième enfant passe de 14 à 18 ans. Cela peut représenter un manque à gagner de 900 euros par an. Et puis certains frais hospitaliers s'alourdissent. Le forfait patient urgence facturé pour un patient aux urgences sans être hospitalisé passe de 19 à 23 euros. La météo cet après-midi, de la grisaille en Normandie et en Ile-de-France. Les maximales sont comprises entre 10 et 14 degrés. Le journal a été préparé avec l'ACDAR Olivier Benmalek. Nicolas Leroulet était à la technique.